Ben, je m'appelle Benoît Forgeard, je suis un homme et je suis réalisateur de cinéma et notamment du film Gaz de France, dont on entend beaucoup parler en ce moment.
Et dont on va parler tous les deux là, justement. Donc tu nous as dit réalisateur, mais il me semble aussi que tu es un petit peu acteur.
Un petit peu, hein. Je le suis de façon un peu amateur, surtout dans mes films, quelquefois dans les films des autres. Mais c'est vrai que c'est une partie de ma vie que je ne développe pas vraiment complètement. C'est une sorte de hobby. Ça m'intéresse pourtant, mais c'est vrai que c'est un métier un peu différent de celui de réalisateur, même complètement différent. Donc je fais ça et j'essaie de le faire par jeu, par amusement. J'ai pas envie de le faire trop sérieusement. En même temps, je me rends compte aussi que c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup, notamment dans mon travail de réalisateur, de faire l'acteur chez les autres notamment. C'est quelque chose qui m'apprend beaucoup. Donc j'aimerais le faire plus souvent. C'est surtout que, en fait, il y a autant de façons de tourner que de réalisateur ou de réalisatrice. Donc d'être sur un plateau, dans la position privilégiée du comédien, privilégiée parce qu'en fait, on arrive voilà, au dernier moment, on est choyé, on est vraiment au plus proche quand même du réalisateur ou de la réalisatrice. Et ça amène une façon nouvelle de procéder. On se dit, ah oui, c'est vrai, elle travaille comme ça, peut-être que je pourrais tenter ceci la prochaine fois. On voit comment est-ce qu'il va essayer d'obtenir ça de moi. Ça... Donc tout ça, c'est intéressant. C'est vraiment très enrichissant d'être comédien. En vue d'être réalisateur. L'inverse est sans doute vrai aussi d'ailleurs.
D'être réalisateur
en vue d'être comédien. D'ailleurs, je pense qu'on pourrait, on pourrait prendre deux substantifs différents. Intéressant d'être soldat en vue d'être boucher. tu vois.
Bon. Les deux marchent très bien.
Les deux marchent très bien.
Avant, justement, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de... Parce que comme tu l'as justement dit, on va parler du film ici, Gaz de France. T'en as fait d'autres, donc je te parlerai peut-être un petit peu, si on a le temps. Du film Gaz de France, est-ce que tu peux tout simplement nous parler de ce film, un petit peu, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu?
Tu veux dire raconter la fin?
Raconter la fin, ouais, par exemple. Surtout le début, en fait.
Bien, Gaz de France, c'est un film qui nous décrit une situation dans un futur proche, qui est celle d'un président de la République en France, élu sur le succès d'une chanson, et qui tombe dans l'impopularité. Et quand il est dans l'impopularité, c'est le début du film, impopularité importante, il échoue dans une émission de télévision, donc c'est la goutte d'eau qui fait vraiment déborder le vase, et son principal conseiller, celui qui l'a un peu fabriqué, celui qui a écrit la chanson pour lui, doit tenter de trouver une idée. Une idée, on va dire, de détournement de l'opinion, hein, pour que l'opinion, tout d'un coup, pense à autre chose et cesse de, on va dire, de focaliser sur l'incompétence de son président.
Comment est-ce qu'elle a germé, cette idée? Le choix des acteurs a commencé, tu t'es dit, oh, Philippe Catherine en président, ou est-ce que t'as eu cette idée, t'as tout de suite vu qui est Philippe Catherine ou...
J'ai rencontré Philippe en cours d'écriture. Et donc, c'était pas forcément lié. Hein. C'est-à-dire que c'est pas un film dont l'idée m'a été donnée par une idée de casting, par exemple. Donc, l'idée de l'histoire, elle vient de très loin. C'est-à-dire que, en tout cas, ça fait longtemps que les histoires politiques m'intéressent. Mais elle m'intéresse aussi. D'une façon qui est un petit peu métaphysique. Bon, là j'emploie des mots un peu alambiqués, je vais m'exprimer clairement. C'est-à-dire que je pense que la question politique et la question surtout de la présidence de la République en France est quelque chose qui a aussi un aspect un peu psychologique, un peu métaphysique, jusque-là, me paraît ne pas avoir été vraiment documenté. C'est-à-dire, encore une fois, pour m'exprimer plus simplement, il y a eu pas mal de films ou de séries sur les arcanes du pouvoir, où on voit les conseillers de l'ombre, etc. Je crois qu'il y en a une encore, là j'ai vu des affiches dans le métro avec Cadmerade et Nils Arestrup, on va voir un peu comme ça, ça s'appelle, je crois, Baron Noir. Où on va voir, j'imagine, comme ça, les arcanes très méchantes et très, très puissantes des politiques. Mais tout ça ne décrit jamais véritablement ce qui, pour moi, est une part très importante, finalement, de notre rapport au pouvoir. C'est qu'il y a, dans ce personnage qu'on élit tous les 5 ans, une charge, une dimension psychologique, onirique même. Quelque chose tout d'un coup qui fait que ce personnage, d'ailleurs, c'est souvent ce que décrivent ceux qui sont élus, que ce soit Sarkozy ou Hollande, ils disent tout à coup on est un petit peu dépossédé de soi, on devient une espèce de symbole, on devient autre chose, on devient une incarnation de ce que les Français ont en tête. Et donc je voulais raconter ça. Je m'égare peut-être un petit peu. Pour en revenir à Philippe Catherine, Philippe, en fait, c'est quelqu'un qui est, on le connaît sous ses abords comme ça un peu extravagant, de personnage qu'il est sur scène, mais en fait, c'est quelqu'un de beaucoup plus réservé et qui, dans la vie, peut même avoir un aspect un peu présidentiel. Et pas seulement quand il mange du fromage. C'est quelqu'un qui peut avoir vraiment cet aspect suffisamment, on va dire, d'une autorité comme ça, douce, que tout se plie, toutes les choses se plient à sa volonté sans que jamais il élève la voix, simplement par sa présence. C'est cette force qu'ont souvent les politiques. Et donc quand j'ai vu ça, quand j'ai vu ce phénomène chez Philippe Catherine, quand j'ai vu à quel point comme ça les couverts, on était au restaurant, les couverts comme ça se rapprochaient de son assiette, le fromage se blottissait dans l'assiette, je me suis dit cet homme-là a une autorité naturelle. Et je vais le prendre comme président de la République. C'est précisément ce que je voulais te dire, c'est que en fait le personnage intime profond n'est pas le personnage qu'on voit sur scène, de personnages différents. Ce qui passait aussi par une petite transformation physique, hein, c'est-à-dire j'aurais pas imaginé un seul instant avoir Philippe s'il m'avait dit non, je rase pas ma moustache, je coupe pas mes reflets, je n'aurais pas pu le faire avec lui, parce qu'il fallait pas que le personnage du président, il fallait qu'il soit plausible quand même, il faut qu'on puisse y croire. Mais de toute façon, pas un instant non plus, Philippe m'aurait demandé de garder la moustache et les rouflaquettes.
Et on s'est concentré sur Philippe Catherine, mais il me semble que tu aimes bien utiliser toutes les facettes de tous tes personnages, c'est-à-dire qu'on a tous les personnages qui ont une histoire
et ça
qui,
ne t'a pas échappé.
Et qui sont vraiment tous utilisés. Et ton ancien film Réussir sa vie de 2012, il me semble, racontait trois histoires dans un même film. D'où vient cette envie de raconter beaucoup de choses dans une seule chose? Et pourquoi rassembler toutes ces petites choses dans une seule chose, qui est un film en fait?
Écoute, ça vient de quelque chose qui est chez moi un penchant, que je me lasse assez vite des histoires. Donc par exemple, voilà, j'ai du mal à lire un roman qui va au-delà de 200 pages, j'ai du mal à regarder un film qui fait plus de 2 heures. J'aime qu'on me dise un truc de façon concise. Je suis un grand amateur par contre de poèmes, hein. Ils ne sont pas trop longs. Mais donc j'aime bien la concision au cinéma. Et ailleurs. Et ça, c'est d'ailleurs quelque chose qui est en train de changer peut-être chez moi, parce que je commence à comprendre l'intérêt de la durée quand même pour arriver à entrer dans une certaine profondeur. Et donc jusque-là, en fait, j'aimais bien les choses courtes et qui disent rapidement ce qu'elles ont à dire. D'où mon intérêt pour les histoires brèves qu'on peut articuler les unes aux autres. Donc on s'ennuie jamais. Quand on en a assez, hop, on claque la porte et on passe sur notre histoire jusqu'à la prochaine, etc.
Et j'ai aussi vu du coup que tu faisais pas mal de courts-métrages.
Oui, surtout, bien sûr.
Un peu aussi. Qu'est-ce qui t'a fait sauter le pas la première fois entre le court-métrage et le film?
C'est-à-dire que tu sais, le film en cinéma, le long-métrage, c'est toujours un peu le Graal quand même. Hein, même si le court-métrage a été très formateur pour moi. Mais le cinéma, pour des raisons plus ou moins bonnes, en tout cas, il se cristallise dans le long-métrage. C'est là qu'il y a la rencontre vraiment d'un public. C'est là aussi où il y a une œuvre possible, donc aussi une carrière possible. Hein. Puis moi, j'ai envie d'être cinéaste, hein, tu vois, pour différentes raisons d'ailleurs aussi. On pourrait les explorer. Mais en tout cas, le long métrage est le moyen de vraiment de mener une vie, une carrière de cinéaste. Et donc j'ai franchi le pas à partir du moment où j'ai trouvé un moyen d'aller vers ce long métrage.
Quand dehors il fait froid, même dans les salles délabrées où ça brille des rats. Un frigo. frisson me parcourt quand la lumière se baisse. Je savoure chaque plan comme une paire de fesses. Je veux presque palper notre excitation quand nous habillons le silence de nos respirations. Des géants crèvent l'écran, éveillent les rêves des gens, émerveillent même l'écran, énervent des stress en essayant de ne pas faire semblant, de s'amuser sérieusement comme le font les enfants. C'est un art cathartique inouï qui choque, divertit, ébouri, fou, ravi, fait sourire ou s'ouvrir. Toutes ces histoires à dormir assis nous en mettent plein la vue et l'ouïe. Des personnages de Jarmusch aux images de Bill Kesselan, du rire d'Amadeus au punchline de Bill, et les bons films sont rares, s'apprécient comme des cadeaux. Il m'est arrivé d'avaler des soupes de navets spatiaux qui n'ont pas étanché ma soif et branlé ma passion, l'écran et ma glace. Donc mon esprit, comme guidé par l'orgasme, m'a suggéré d'écrire cet hymne au cinématographe. Parapente en me jetant du paramount. Oubliez mes 20 ans sous les projecteurs de la Fox. J'ai même invité Totoro à dormir dans un château rose. Lui ai fait faire son rototo. On était en parfaite osmose, parfois du thé de DreamWorks. Je me jette à l'eau pour mieux grimper au sommet de l'antenne de la RKO. Quand sauvagement le lion de la MGM rugit dans ma tête, des fragments de live de NTM surgissent. On a pendu Laurel et Hardy pour quelques dollars de plus. J'ai retrouvé la corde planquée sous une arche russe. Les fils de l'homme qui rétrécit ont rejoint le 7e continent. C'est irréversible. Sadako a mis du gloss et accourt vers son petit amant Nosferatu. La sorcière du pays d'Oz est jalouse, fond en larmes, et son mari Voldemort fait la roue. Saviez-vous que, suite à un rat mari, des crocodiles zombies dorment au pied d'un monolithe sur la montagne sacrée, tandis qu'un vieux troïde androgyne parcourt une plage de naturistes. Quand j'embobine cet art utile des pages d'images jaillissent, je vois les gants de Gilda sur le pont de Dockville, piétiné par Godzilla. La hache de Jack Torrance dans les mains d'un Joker hostile. Pas besoin des joints de Jeff Lebowski. Au ciné, y'a trop de miracles. Familial ou solitaire, à la croisée du réel et de l'imaginaire. Même le quotidien y paraît extraordinaire. Et quand on choisit bien la salle, l'entrée n'est pas si chère. Alors oubliez les forums sur internet. Venez faire vibrer les murs de toutes ces salles désertes. Savourez les jump cuts, les travelling compensés, les invraisemblances cohérentes, la vie condensée. Dévorez du regard des faces de cake, des vallées 4 à 4, les escaliers sales de règles. Croisez Lars von Trier, je suis trop fan de ce mec. Je pourrais lui offrir un manteau en potane de Shrek.
Du coup, t'es passé par émission télé,
oui,
court métrage et film. Mais du coup, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'il y en a après ça?
Bon, écoute, tous les supports m'intéressent, mais comme je te disais, je sens poindre en moi. Est-ce que c'est la maturité? Est-ce que c'est l'âge? C'est vrai que c'est quand même un âge un peu, peu important. On doit faire des choix. Et donc, je me dis, je vais vraiment me consacrer peut-être au cinéma pleinement, cesser de me disperser dans des choses illusoires, cesser par exemple de faire du foot le dimanche, ça m'apporte pas grand chose, et vraiment y aller à fond dans le cinéma, avec des films de plus en plus longs.
Du coup, peut-être une idée de prochain film déjà,
ou pas? Ouais, tout à fait.
On a le droit d'en savoir
un tout petit peu, puisque évidemment tout ça est secret, hein. Le scénario est détenu dans un coffre-fort. Je peux donner peut-être le code.
Le code, ouais, la limite.
28B4.
28B4, donc c'est noté.
Voilà, et donc le scénario, c'est une histoire d'intelligence artificielle, un sujet qu'on voit déjà poindre dans Gaz de France. Là, ça sera beaucoup plus sur l'intelligence artificielle elle-même, mais j'ai envie de faire quelque chose qui soit quand même amusant. Et c'est l'histoire d'un frigo, tout simplement, un frigo intelligent qui préfère se lancer dans la musique plutôt que de conserver les aliments. Ce qui me l'a inspiré, c'est une conférence que j'ai vue il y a quelques années au Collège de France sur la domotique. où il y avait des gens formidables qui se succédaient sur une scène pour nous raconter un peu ce que serait notre futur immédiat. Hein. C'est pour là, hein, c'est pour dans quelques mois, quelques années. Et donc, ils racontaient des choses invraisemblables, mais pas invraisemblables, d'ailleurs très vraisemblables, mais très drôles de mon point de vue, très burlesques, comme par exemple le fait que bientôt on prendrait une voiture et que cette voiture pourrait voir à quel moment les paupières commencent à se baisser, donc pourrait mesurer le fait que le conducteur est en état d'endormissement, et ces voitures s'arrêteraient sur le bas-côté d'elles-mêmes et téléphoneraient d'elles-mêmes, appelleraient un proche pour venir vous chercher. Donc ça, je me disais, c'est vraiment génial, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment, on va réinventer le vaudeville avec les machines qui arrivent. Et je pense donc que c'est ça qui m'intéresse. Et peut-être aussi le film Heure, c'est peut-être à ça que tu faisais allusion, un film qui m'a beaucoup intéressé, qui m'a beaucoup plu. Simplement, moi, je voudrais raconter quelque chose autour de l'intelligence artificielle, mais de façon beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus européenne, voire beaucoup plus française. C'est-à-dire que c'est pas un hasard dans mon film si la machine est un frigo, hein, c'est-à-dire peut-être la machine la plus lave-linge aussi, et n'est pas spécialement romantique, mais en tout cas le frigo nous ramène à des choses élémentaires d'alimentation, et pour moi c'est un sujet passionnant. C'est que va-t-on devenir le jour où le frigo ou l'aspirateur feront mieux que nous des poèmes. Ça pourrait quasiment être la punchline de l'affiche. I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it off? Go ahead. One, two, three, four. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get up. Get on up. Stay on the scene. Like a sex machine. Wait a minute. Shake your arm. Then use your palm. Stay on the scene. I like a sex machine. You got to have the feeling. Sure as your bone. Get it together. Right on, right on. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Get up. Get on up. J'ai été élève en maternelle, et peu de gens le savent.
Et peu de gens le savent.
Je suis un élève brillant.
Brillant.
Brillant, brillant. Dès la deuxième année, je commençais déjà à donner des cours aux autres.
D'accord.
Donc déjà, pas toujours sur une... Non, je savais pas lire, justement.
Le gribouillage, tout ça.
Beaucoup de gribouillage, oui. Ah ouais. J'ai appris le gribouillage aux autres élèves.
D'accord. Qu'est-ce qui t'a fait développer ce don, enfin,
Le don de
Du gribouillage.
Bah, le don du gribouillage, tu fais bien de parler de don, parce que tout le monde l'a pas. Hein. Il y a des gens qui gribouillent mal, par exemple. Hein. Dès le début, on les repère très vite, et ils sont tout de suite mis sur des voies, des filières différentes. Non, bah, le don du gribouillage, c'est-à-dire que le gribouillage, c'est assez intéressant. Ça se rapproche de ce qu'on appelle aussi, je crois, la sérendipité, pour ne pas dire une énormité. C'est-à-dire, le gribouillage, c'est errer, en fait. Hein. C'est une errance, le gribouillage. C'est-à-dire que c'est un dessin qui n'a pas d'objectif précis. Et donc, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi artistiquement, et je dirais même humainement. C'est l'idée, quand même, de pouvoir... et je pense que c'est très important, surtout à notre époque, parce que je ne suis pas du tout dans le « c'était mieux avant hein, », pas du tout, mais simplement, on a une époque qui est très canalisée, tu sais, parce qu'on a, des objets formidables qui nous entourent, on est très canalisé, et donc je crois que c'est quasiment quelque chose de politique, de philosophique, c'est de pouvoir errer sans but. D'accord. C'est capital, je crois, parce que c'est dans ces moments-là que, tout à coup, des idées peuvent survenir. Quand on est vraiment trop canalisé, quand on est canalisé même pour le meilleur, hein, dans une vie très agréable, entre Facebook, les amis, etc., des habitudes, on n'arrive pas à pouvoir faire survenir des idées qui ne viennent de nulle part parce qu'on n'erre pas suffisamment.
D'accord. Et pour en revenir à ce que tu disais sur le fait d'être redirigé quand on n'avait pas ce don que tu avais naturellement du gribouillage, est-ce que tu trouves ça bien de grouper les gens de plus en plus jeunes dans leur secteur
de créer des filières, tu veux dire, très tôt? Non, évidemment, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien parce que ça risque effectivement de créer des personnes trop rapidement convaincues qu'elles sont ceci plutôt que cela. Alors qu'en fait, la vraie question, c'est de pouvoir toujours ménager la possibilité à un être de devenir vaste et divers. On peut le devenir, cela dit, quand on est trop tôt dans une filière, parce qu'on peut le devenir par révolte. Hein. On peut se dire, c'est pas ma place et j'ai envie d'aller voir ailleurs. Mais c'est plus difficile. C'est très important, je crois, de pouvoir... et je te dis ça, moi, je veux pas me donner m'ériger en donneur de leçons. J'ai du mal à le faire aussi dans ma vie, de plus en plus. Mais je me rappelle des moments de ma vie importants. C'est souvent des moments d'errance intellectuelle et philosophique.
D'accord. Et maintenant, avec cette petite digression, est-ce que tu serais capable de retrouver, avec cette discussion, un lien direct avec le film Gaz de France?
Oui. D'ailleurs, c'est intéressant parce que tu vois ton interview... habilement mené, me fait me rendre compte que c'est par hasard si Gaz de France a cette forme-là, a cette forme de quelque chose qui n'est pas spécialement dans l'idée d'un scénario au contraire efficace qui va droit au but. Les personnages cherchent des récits, c'est l'histoire du film, hein. Ce sont des personnages qui cherchent un récit, ils cherchent une idée, ils cherchent un récit dans une France où l'histoire a un peu disparu au profit des histoires. Donc c'est évidemment pas un hasard, et c'est vrai que le film est aussi une forme de promotion de l'errance. Simplement, je voulais pas que ce soit un film non plus trop ennuyeux, donc il y a quand même un récit porteur, quelque chose vers lequel on va. Mais c'est l'idée quand même qu'on va d'une histoire à une autre. Oui.
Tu es convaincu qu'il faut un récit porteur, une ligne rouge pour intéresser forcément le monde du début à la fin d'un film?
Non, pas forcément, mais bon, tu sais, je suis aussi un spectateur, hein, évidemment, tu t'en doutes, et j'ai horreur de m'ennuyer. Donc je sais que même si un film a des atouts artistiques, conceptuels, intéressants, comme j'aime bien quand même pouvoir m'intéresser à quelque chose dans un film, je sais que le récit va pouvoir m'y mener. Mais j'ai quand même toujours des réticences vers un récit qui serait trop rondement mené. Tu vois, j'ai du mal par exemple avec les séries américaines que tout le monde loue, sans doute à juste titre, hein, tout ça est très bien fait, mais j'ai toujours l'impression, si tu veux, d'être... pris en main par, des espèces de gros lourds. C'est un peu dur de dire ça, mais j'ai l'impression d'être emmené de force. Or, ça m'ennuie un peu. J'ai un peu, tu vois, excuse-moi, j'ai dit gros lourd parce que je trouvais pas les mots, mais c'est un peu pris de force par un conseiller d'orientation qui voudrait m'emmener dans une filière, tu vois. C'est ça un peu quand je regarde une série américaine, genre les premiers épisodes, super, deuxième, troisième, je vois qu'il y en a 40 derrière, je vais pas passer ma vie quand même.
Tu veux te rapprocher du gribouillage au niveau du scénario principal, de l'errance au niveau des...
C'est ça, enfin, j'ai envie à la fois d'arriver à prendre des chemins de traverse, j'ai quand même aussi envie quand même, je sais que la vie c'est ça, il faut quand même pouvoir intéresser les gens, tu vois, comme nous là en ce moment avec notre interview, on va pouvoir parler de choses diverses, enfin on n'a pas envie que les gens éteignent leur poste.
C'est moi qui m'occupe de ça. Bah, merci bien, un petit mot de la fin peut-être?
Est-ce que l'émission est en direct? Je ne crois pas. Hein. Donc le mot de la fin, il est tout trouvé. C'est que je donne rendez-vous à tous les Saint-Aignanais et Saint-Aignanaises qui se respectent et je leur donne rendez-vous avec grand plaisir vendredi soir au Petit Casino. Hein. Et je serai non seulement heureux de leur présenter le film, mais heureux de discuter avec eux à l'issue du film. Et je ne dis pas ça pour chaque ville. Hein. Attention.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Thank you.